Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on se retrouve comme chaque semaine pour vous aider à gérer au mieux votre patrimoine, pour vous faire découvrir telle ou telle stratégie, concept ou idée d'investissement. C'est votre rendez-vous patrimonial sur Radio Patrimoine. Au sommaire de ce 26e numéro, eh bien, vous saurez tout sur le trading grâce au regard expérimenté à venir d'une sommité de ce métier. Et puis on parlera aussi d'une nouvelle solution concoctée pour les CGP pour les aider à élargir leur champ d'action. Et puis, on terminera avec un petit peu d'immobilier. On fera rimer SCPI et PER. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et donc, on rentre de plein pied dans cette émission et on va parler trading avec Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Cédric.
Ravi de vous retrouver sur Radio Patrimoine, Perceval Finance Conseil. On vous suit depuis des années sur ce monde du trading. Et on précise à chaque fois, vous êtes trader pour compte propre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que ce métier de trading, de trader pour compte propre? En quoi est-ce que ça diffère éventuellement d'être pour compte propre ou d'être un autre type de trading quand on bosse pour un fonds ou pour une banque?
Oui, bien sûr. Alors, compte propre, en France, quand on dit trader pour compte propre, c'est pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne gère que son argent et ensuite, on peut avoir une activité comme moi de recommandations différents supports, notamment...
De guide, quoi, finalement.
Oui, bah, des idées d'investissement qu'on propose, ou des idées de placement, ou des idées spéculatives, ou des stratégies de fonds. Moi, c'est plutôt des stratégies de fonds que je propose. Et après, vous avez le trader pour compte propre d'une banque.
D'accord. C'est-à-dire
pour le compte de la banque. Mais ça se fait de moins en moins, depuis l'affaire Kerviel, et ils ont carrément, quasiment tous disparu, on peut dire, hein. Et après, vous avez des traders qui travaillent en effet pour des fonds. Et là, bien sûr, ça existe encore. Alors après, il y a tellement de formes de trading. Ça peut être du court terme, du moyen terme, du long terme. Quand on parle long terme, on va plus se rapprocher de la profession de gérant, hein, quelque part.
Bien sûr. On
a plus l'habitude de dire gérant d'un fonds, etc. Trader, c'est plutôt... déjà, autour du mot trading, trader, il y a beaucoup de fantasmes, mais... L'idée, c'est, en règle générale, de profiter d'opportunités à plus court terme.
D'accord.
Alors, je fais cela, bien sûr, mais je fais aussi des stratégies long terme. D'ailleurs, c'est la base de nos recommandations. Elles sont sur des horizons de temps. On ne sait pas combien de temps va durer une tendance, mais parfois, ça peut durer 6 mois, on va être haussier, et chaque jour, on va essayer d'attraper des opportunités sur des replis, on va acheter sur des replis, dans le sens de la tendance de fond que j'aurais déterminée comme étant haussière ou baissière. Et à ce moment-là, si c'est la baissière, on aura prioritairement une recherche de vente sur des points de rebond, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais surtout pas trop de fantasmes sur le trader qui est un... C'est pas un devin,
ouais.
On en reparlera, c'est vraiment, il faut des méthodes.
Justement, en fait, ça fait plusieurs dizaines d'années que vous êtes sur ces marchés, que vous tradez au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Parce que quand on regarde, nous, les marchés, on se dit finalement... Entre la corbeille décrite par René Tendron dans les années 80 ou la bourse telle qu'elle est aujourd'hui, où on nous parle de cotation à la milliseconde, etc., on se dit qu'il y a un monde. Est-ce que dans le trading aussi, ça a changé au cours de toutes ces années?
Ah oui, oui, c'est énorme. On est passé entre les années 80, moi j'ai commencé en 82, à m'y intéresser, et j'ai eu ma carte professionnelle en 83. Et on est passé de la préhistoire à la haute technologie, bien évidemment. Il s'est passé plus de choses entre 80 et 2000 qu'entre 1900 et 1980. Mmh. Et donc, les principales différences, c'est quoi? C'est déjà les cotations électroniques. Ça a changé l'accessibilité au marché. Parce qu'avant, c'était plus compliqué. Donc, crier, corbeille, il fallait envoyer des ordres par téléphone qui étaient centralisés entre midi et 14h30 sur le Haut-Palais Brongniart. Mmh. Après, quand il y a eu les cotations électroniques, ça a permis à chacun, via même au départ le Minitel, de passer des ordres qui étaient acheminés directement au marché. Et puis voilà, ça a été de plus en plus vite, de plus en plus
facile. Et maintenant, c'est des plateformes, des robots automatisés qui font ça à la milliseconde, quoi.
Éventuellement, pour même parfois des clients particuliers qui créent des robots et qui sont des traders extrêmement actifs. Il y en a énormément, notamment aux États-Unis. Donc oui, le changement est gigantesque. La vitesse aussi d'information. Ça n'a plus rien à voir.
Bien sûr. Justement, enfin, vous disiez qu'il y a des fantasmes, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de fantasmes. Mais dans le grand public, en fait, le mot trader, le mot trading, c'est souvent vraiment associé à du risque, à une activité vraiment très risquée. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises, on va dire, par les particuliers quand ils se lancent sur le marché en se disant « Allez, j'y vais être le loup de Wall Street ».
La première erreur, c'est pas de se former, c'est d'arriver là-dedans en pensant que le bon sens suffira. Parce qu'après tout, vous arrivez sur un marché, vous vous dites, ça peut monter, ça peut baisser. Bon, eh bien, je pense que mon bon sens...
va me protéger ou va me guider.
Va me faire avoir raison peut-être 3 fois sur 5. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Donc, il y a beaucoup de choses, encore une fois, c'est vrai, à dire sur la manière dont il faut aborder les choses. Souvent, ce sont, dans le trading, les effets... Qui dit trading dit aussi effet de levier dans la tête des gens. Donc, ils ne se rendent pas compte...
On multiplie
Le gain potentiel, mais aussi la perte potentielle. Et donc, à ce moment-là, vous avez vraiment des... sur le plan psychologique, beaucoup de choses qui se mettent en route. Après, la cupidité aussi des gens peut... naturelle, hein, vous savez, c'est pas forcément... Mais on est tous un peu cupides, peut-être, à certains moments. On se dit « Ah, ben, je veux gagner plus, etc. » D'ailleurs, dans la scène de Le Sucre, le petit plus, vous vous souvenez, quand ils ont voulu gagner le petit plus et il fallait partir. Donc, c'est compliqué parce que c'est pas une science exacte. Mais en même temps, faut apprendre des choses. À la limite, c'est presque comme une partie d'échecs où vous apprenez à jouer, vous connaissez les règles, vous avez des idées, etc. Mais pour arriver à devenir un très fort joueur, il faut beaucoup travailler et en bourse, c'est la même chose. Et
qu'est-ce qu'il y a comme indicateurs, finalement, qui sont à disposition du trader aujourd'hui ?
L'indicateur principal, c'est le prix. Alors, ce n'est pas une dérivée du prix dont je parle, là, c'est le prix. Le prix et sa forme, c'est pour moi la chose la plus importante. Donc, après... On regarde un graphique, vous avez énormément d'outils qui peuvent vous donner évidemment des graphiques en temps réel, et vous regardez simplement dans quelle direction part le prix. Après, ce qui fait peur aux gens, c'est quand il y a des... Est-ce qu'il y a un retournement de situation ? Mais cette peur vient souvent de l'effet de levier qu'ils vont utiliser dans leur prise de risque. Et c'est là où ils ne se rendent pas compte bien souvent... de la capacité à bouger du truc, de la valeur, mais ça peut être une valeur...
Ça peut être un indice, ça peut être une matière première...
Voilà, un taux... Voilà, ils ne se rendent pas compte de sa capacité à bouger, de sa volatilité potentielle. Donc si on fait facilement 10% à la hausse ou à la baisse, et en ce moment, sur les actions, c'est terrible, et que vous jouez, par exemple, à 5 fois la mise, parce que là, ça devient du jeu... 5 fois 10%, ça fait 50%. Ouais. Eh bien, à ce moment-là...
À la hausse, ça va, à la baisse, c'est plus compliqué.
Donc, dès que vous commencez à perdre même 25%, vous vous dites, oh là là, mais vous avez la pression qui augmente. Et à ce moment-là, le cerveau, il ne fonctionne plus normalement. Il y a la peur, il y a l'angoisse, vous avez envie que ça s'arrête. Et quand vous perdez même 25, vous dites, mais il en faut peu pour que je perde 25 de plus. Et là, voilà, c'est la panique. Les gens n'ont pas de plan, ils font n'importe quoi.
Mais est-ce qu'il y a des stratégies, entre guillemets, qu'un trader professionnel commence par ciseler, etc., et puis qui peuvent être finalement répliqués par des épargnants qui s'initieraient un petit peu.
Il y a des prises de conscience nécessaires. Donc déjà, cette capacité à bouger du produit qu'on va traiter. Ensuite, il n'y a pas de méthode miracle. Ça, c'est... C'est partie du fantasme.
Il n'y a pas de truc... Pas de martingale.
Non, il n'y a pas de martingale, et le trader n'est pas un devin. Un bon trader, c'est quelqu'un qui suit une méthode, un process, on pourrait dire plutôt, parce que méthode, ça amène tout de suite l'idée du méthode miracle, ça me gêne un peu. Mais bon, on va parler quand même de process, de méthode, et qu'il a, si vous voulez, testé, retesté, qu'il a utilisé et dans laquelle il a confiance. C'est pour ça qu'il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Le trader, vous savez, c'est dur, ce métier. Donc, il faut qu'il ait confiance dans une manière de faire en utilisant les différents outils à sa disposition. Et comme vous le disiez tout à l'heure, entre 1980 et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Déjà en 87, les options sont arrivées, mais la montée en puissance vraiment des options, ça a été les années 2000. Et là, ces derniers temps, c'est encore monté d'un cran. Donc, il faut savoir utiliser les produits à disposition et connaître leurs conséquences sur les phénomènes de construction de marché, etc. Donc, en fait, c'est très vaste. Il faut une connaissance à la fois pointue, technique, en effet, sur les outils, mais sur la manière dont sont construits les marchés. Et là, il y a beaucoup moins d'experts dans ce domaine parce que c'est vaste. Il faut l'avoir vécu. Il faut vraiment avoir été dedans. Et c'est en étant dedans avec des gains et des pertes qu'on arrive à progresser.
Jean-Luc Hussac, vous le disiez, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et vous parliez tout à l'heure des outils, des plateformes numériques, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui, même au fond de sa poche, sur son smartphone, peut avoir accès à des applis qui lui donnent un petit peu l'impression, finalement, d'être comme chez vous, devant ses écrans et de pouvoir trader. Comment est-ce qu'on peut s'initier un petit peu au trading? Vous disiez, il faut se former, etc. Comment est-ce qu'on peut le faire de façon, on va dire, progressive, responsable, sans prendre non plus de risques inconsidérés quand on est épargnant non professionnel?
Ah, c'est difficile parce que chacun va aller dans une direction qui lui est propre. Souvent, les gens se surestiment peut-être un petit peu. Ils se disent, moi, je connais bien l'économie, par exemple. Oui, mais l'économie et le trading, c'est deux choses vraiment totalement différentes. Combien de fois sur les marchés, on voit des divergences entre ce que font les marchés financiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils anticipent, et la réalité du moment où le particulier, notamment, va se dire « mais ça va très très mal ». Là, par exemple, ça va très très mal en France. Et pourtant, les marchés résistent, donc les gens ne comprennent pas. Donc, par exemple, ils vont prendre des positions vente à découvert, ils vont acheter des produits qui leur permettent de se protéger de la baisse. Le problème, c'est si tout le monde fait comme ça, si on se protège de la baisse, on n'est plus vendeur potentiel. Donc, en gros, ce qu'il faut analyser, c'est la conséquence des prises de position et non pas la prise de position. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est réellement sur un marché? Si je suis vendeur, je suis un acheteur potentiel, donc je risque de faire monter les marchés. Et si c'est l'idée qui est la plus répandue, eh bien, les marchés ne peuvent pas trop baisser. Et c'est ce qui se passe actuellement.
Alors, justement, ces marchés, on va essayer de profiter de vos 30 et quelques années d'expérience pour guider peut-être un
40.
Petit peu... 40 années et quelques d'expérience pour guider un peu nos auditeurs. On sait qu'ils peuvent être parfois très volatiles et parfois un petit peu déraisonnables, on va dire. Comment est-ce qu'on gère une période de turbulence, justement? Par exemple, je pense aux périodes estivales, parce que c'est souvent comme ça qu'on caractérise un petit peu les périodes estivales. Mais il y en a d'autres, là. On pourrait penser à la période actuelle, avec effectivement toutes ces questions politiques qui peuvent ou qui vont peut-être, on verra ce qui se passe aux États-Unis, créer de l'émotion.
Alors, la première chose à faire pour un particulier, ce serait d'avoir des convictions et de se dire, bon, après la pluie viendra le beau temps. Donc, je vais tenter dans cette période de profiter de trous d'air pour acheter des valeurs dans lesquelles j'ai grande confiance. Alors souvent, ces derniers temps, on a plutôt recommandé quand je dis « on », c'est globalement.
Le marché, oui.
Ouais, c'est les conseils divers et variés de professionnels, mais des valeurs de rendement, par exemple, mais des grosses valeurs, pas les petites. Et donc, on va simplement attendre des prix intéressants. Mais intéressant, peut-être pas à très court terme, mais au moins dans une perspective long terme. Et on a vu à nombreuses reprises que ça pouvait aller très très vite. Après, il y a le trader que moi je suis, où là, la volatilité, le fait que ça puisse bouger, ça nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur des dimensions autres que le prix, on va travailler sur la volatilité implicite, c'est-à-dire ce qu'on attend de la suite des événements. À ce moment-là, les différents acteurs des marchés peuvent venir se protéger. Et ça peut être des gérants, bien évidemment. Et ils vont acheter des puts, des options de vente. Ou ils vont acheter des calls pour se protéger dans l'autre sens. Et donc, il va y avoir une forte demande. Et la volatilité anticipée à ce moment-là par le gérant, par le particulier, par le spéculateur, va faire que ces options vont être très chères. Donc, on va peut-être avoir tendance à vouloir les vendre. On peut les faire des spreads, bien sûr, mais on va essayer de les vendre. Et profiter de ces peurs, en fait, qui vont nous permettre de travailler sur le temps. C'est-à-dire que cette volatilité fait que les options sont très chères et le temps qui passe fait que les options valent à un moment donné leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire potentiellement zéro, et on va essayer de gagner cet espoir ou le fait qu'ils soient venus simplement se couvrir.
Donc, option, put, call, spread, enfin, je veux dire, ça fait quand même un paquet de vocabulaire, de mots, de techniques à bien avoir en tête. À cela, on rajoute un gros soupçon d'émotion qu'il faut être capable de gérer. Vous le disiez, parfois, on panique un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut avant tout, et presque avant de maîtriser ces mots techniques, bien maîtriser ses émotions, savoir ce qu'on veut, c'est ça ?
Très vite.
Ou ce qu'on ne veut pas.
Dès qu'on va faire quelque chose, l'émotion sera là. À un petit niveau, au départ, si on achète et puis que ça se casse la figure et qu'on peut attendre 10 ans peut-être, il y a quand même de l'émotion, quelque part. Il faut en être conscient. Évidemment, un effet de levier de 2 va multiplier l'émotion par 3, ouais. Par 4. Un effet de levier de 3 par 10, etc. L'idée, si vous voulez, c'est que il faut avoir conscience qu'en tant qu'humain, on va tous être influencés. On ne sera pas tout le temps rationnel dans nos investissements. On va donc être soumis à des biais cognitifs qui sont connus et qui sont quasiment impossibles à éviter. Et on dit que pour diminuer ces biais cognitifs, ces phénomènes émotionnels, l'impulsion que ça peut amener, il faut aller chercher la contradiction à ce qu'on pense quelque part.
D'accord.
D'où les forums, d'ailleurs, qui peuvent être des forums...
Faut pas s'enfermer...
Voilà, faut pas s'enfermer, ouais. Et il faut remettre en cause ce qu'on pense. À la limite, aller sur un forum, ça peut être des pros, des semi-pros, etc. Dire, moi, je pense que ça va monter parce que... il est toujours intéressant d'entendre, ah, ben moi, je pense que ça va descendre parce que... Ou je suis pas d'accord avec toi parce que... Ça baisse déjà l'impact de l'émotion qui nous faisait penser que ça allait monter. Ça permet aux traders de se remettre en cause. Et pour ensuite ne pas trop s'éloigner de ce qu'il faut faire, il faut se raccrocher à des méthodes.
Ouais. Il faut avoir une grande discipline, finalement.
Avoir une grande discipline. Ouais. Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et là, on ne se raccroche pas aux branches, on se raccroche à une méthode qui ne va pas gagner tout le temps, mais qui va gagner parce qu'on l'a constaté, parce qu'on l'a fait sur du moyen terme.
Pour terminer, Jean-Louis Cussat, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un auditeur qui se dirait « Tiens, je me lancerais bien, enfin, j'expérimenterais bien l'émotion de trader. Qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer ?»
S'il veut trader...
Pour démarrer en limitant son risque. Hein, on reste dans un domaine patrimonial. Hein.
Ouais. Alors, s'il veut trader... Il faut qu'il apprenne le fonctionnement des marchés. Ça, c'est la première chose. Avant, moi, c'est dans les formations que nous faisons, on ne commence pas par une méthode. On commence par expliquer comment sont construits les marchés, les règles du jeu, pourquoi c'est construit comme ça. Alors, on va commencer par les actions, on va expliquer les règles et dire que le prix n'est pas issu du hasard. Le prix est légitime parce que les règles de fonctionnement sont hyper encadrées, à la différence des années 80, où là, c'était un petit peu olé-olé parfois. Là, c'est très, très encadré. Tout est contrôlé au millimètre près. C'est vraiment bien fait, si vous voulez. Les marchés ont beaucoup progressé sur le plan de la légitimité du prix. Ça, c'est très important. Ensuite, donc, une fois qu'ils se forment, etc., il faut qu'ils y aillent doucement au départ. Il faut y aller doucement. Il faut se construire, en fait, du vécu. Des situations. Et petit à petit, nous, par exemple, on propose une manière de procéder et les gens vont en garder peut-être 80%, soit 50%. Ils vont adapter à leur personnalité, à leur disponibilité. Si ensuite, on parle des gens qui vont investir en bourse, là, et qui n'y connaissent rien, il n'y a pas 36 solutions. Ils sont obligés d'aller voir un conseil en investissement financier, un conseiller, ouais. SCP, etc., et d'aller les voir et de leur dire, voilà, moi, c'est le boulot du CIF, hein, d'ailleurs, par exemple, qui va être donc de comprendre son client, d'analyser...
De savoir ce qu'il attend et de lui proposer des
exactement,
stratégies.
Exactement, ouais, et de lui proposer des placements adaptés à sa personne. Et les conseils sont faits par écrit, encadrés, avec pourquoi, comment. Et à la fin, le client prend conscience des risques. C'est ce qu'il faut, parce que de toute façon, vous achetez 100 Air Liquide demain matin, c'est peut-être la plus belle valeur, mais il y a un risque.
Bien sûr.
Donc... Le client, il faut qu'il prenne conscience du risque, qu'il accepte ce risque et qu'il fasse aussi confiance à ce moment-là aux professionnels à qui c'est adressé.
Merci beaucoup Jean-Louis.
Après.
Jean-Louis Cussac et Perceval Finance qui étaient au cœur de Patrimoine cette semaine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on met un coup de projecteur sur un lancement ces dernières heures par Shares d'une nouvelle plateforme d'intermédiation en produits bancaires, produits spécialement conçus, on va dire, pour les CGP. Et on accueille du coup Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup, directrice du développement de Shares. Et Benjamin Chemla, bonjour.
Bonjour.
Président de Shares. On va commencer par vous, hein, je suis désolé Charlotte. Pas de place à la galanterie ce matin. Pour présenter peut-être un peu Shares aussi, rappeler qui vous êtes, comment ça fonctionne, et puis surtout, quelle est un petit peu votre vision de cette plateforme, en quoi vous vous distinguez finalement des autres produits d'intermédiation en produits bancaires.
Merci Cédric. Shares est une plateforme française, un prestataire de services d'investissement, un teneur de compte qui donne accès à des produits bancaires, le compte titre pro, très bientôt le PEA, et qui permet d'investir dans tout un tas de supports. On existe depuis à peu près 3 ans. Il y a un peu plus d'un an, on a lancé en France une plateforme retail, donc à destination du grand public, leur permettant d'investir en bourse, en actions, en ETF notamment. Et on s'est aperçu au fil de l'année, en rencontrant un grand nombre de CGP, d'un énorme vide, en réalité, dans l'univers de la distribution intermédiaire et de l'absence d'une plateforme moderne, technique, digne de ce nom. Et donc, c'est ce qu'on se propose de faire cette semaine avec donc le lancement de Shares Pro, qui va être une plateforme dédiée à la distribution intermédiaire de supports et d'enveloppes déjà mentionnées. Donc, gros challenge pour nous et beaucoup d'excitation cette semaine.
On rentre dans le détail un petit peu de tout ça avec vous, Charlotte. Pourquoi maintenant? Quelles sont un peu vos attentes finalement? Dites-nous un petit peu plus sur ce lancement.
Je pense que ça fait à peu près 10 ans que le phénomène de la démocratisation de l'épargne et que de la pédagogie financière est arrivé en France. Il y a eu un vrai sillon, une vraie ouverture au moment du Covid où les gens avaient le temps de s'occuper de leur épargne et donc qui a renforcé toute cette notion de pédagogie financière. Et au bout d'une petite dizaine d'années, en fait, on se rend compte aujourd'hui que sur les 25 millions de Français qui sont en capacité d'investir aujourd'hui, seulement un quart le font. Et donc l'éducation financière, c'est un prérequis indispensable, mais c'est pas suffisant pour bon nombre de Français. Et pour nous, en fait, il est temps aussi, maintenant que les fintechs sont bien instaurés, qu'on a un peu cassé les prix dans le milieu de l'investissement, etc., eh bien, en fait, c'est aussi le retour de l'intermédiation. En fait, nous, on y a vu le bon moment. En fait, on a vu les limites de l'éducation, de la pédagogie financière, de ce qu'on pouvait faire par soi-même. Et donc, on s'est dit que c'était aussi le moment de penser aux intermédiaires, de repenser aux conseillers financiers qui ont été un petit peu laissés pour compte dans toute cette phase de digitalisation. Voilà, et donc, ça nous a paru, le moment nous paraît opportun pour le faire en tout cas.
Alors, quand on parcourt un petit peu votre communiqué, on y trouve la qualification d'une offre digitale tarifairement compétitive avec un univers d'investissement illimité. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée à un CGP ?
C'est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, le CGP, il n'a pas une offre digne de ce nom bancaire qui lui permet, à titre d'exemple, de récupérer un PEA de son client, d'ouvrir un compte titre pour la holding société commerciale de son client. Il va préférer en fait ne pas le faire. Tout simplement, il va préparer ne pas le faire. Et donc nous, aujourd'hui, on lui donne un outil qui lui permet de créer un compte en 4 minutes, sans friction. Donc il n'a pas besoin de reprogrammer un deuxième rendez-vous avec son client, il peut le faire dans la foulée. On va lui donner un outil qui va lui permettre d'aller chercher les papiers supplémentaires, on appelle ça un LEI number, pour par exemple créer un compte titre pro pour une société, une personne morale. Donc on va s'en charger, donc on va lui enlever toute la friction de la création de compte, des transferts. Donc ça c'est sur la partie création, et puis sur l'univers d'investissement, bah, il fallait qu'on soit fort. Et donc, on a le concours d'une belle entreprise qui s'appelle Odo BHF, qui est notre dépositaire. Donc, nous sommes teneurs de compte nous-mêmes, mais nous avons un dépositaire qui est la banque Odo. Et nous utilisons également les services d'Odo BHF pour la partie exécution d'ordre. Donc, ce qui nous donne accès à n'importe quel fonds et n'importe quel produit structuré. Donc, c'était ça l'idée. C'est le one-stop shop, hein, tout au même endroit et avec une simplicité d'utilisation. Pourquoi ? Bah pour faire gagner du temps. Le CGP, il a besoin de temps. Oui, le temps, c'est précieux.
Justement, ces fameux CGP, ils sont très courtisés par beaucoup de monde. Hein. On était notamment avec l'émission dans les allées de Patrimonia il y a quelques semaines et on a vu tout ce qu'on propose à ces CGP. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que cette offre, elle répond peut-être plus mieux que d'autres aux besoins spécifiques de ces CGP dans leurs besoins de digitalisation et d'accès à des produits financiers, Charlotte ?
On va répondre assez directement. En fait, nous, on n'a rien proposé. La demande, elle est venue des CGP. On est rentré au contact pour un autre sujet avec les CGP il y a déjà 6 mois de ça. Et on nous a demandé une première fois, une deuxième fois, avec beaucoup d'insistance, en fait, le service des enveloppes bancaires. En fait, nous, aujourd'hui, déjà, par rapport à tout ce qui se passe, on sait que les CGP sont énormément courtisés. On était aussi à Patrimonia au mois de septembre. Et en fait, la différence, c'est qu'on ne propose pas un produit, on propose un service. On propose une plateforme avec des enveloppes, avec des sous-jacents. C'est le CGP qui va construire son offre. On lui impose pas un...
Oui, c'est ça.
C'est pas une critique, hein, mais on n'impose pas un produit fini avec des délais de souscription, etc. C'est lui qui va faire en fait sa cuisine interne, c'est lui qui va poser ses frais, qui va structurer ses frais entre les frais de garde, les frais de conseil, c'est lui qui va tout structurer de A à Z. Donc nous, on lui propose un service, et ce service, cette plateforme de service qu'on va mettre à disposition, qu'on met déjà, d'ores et déjà, à sa disposition, en fait, c'est eux qui nous l'ont demandé. Donc je dirais que le rapport est quand même inversé.
La question des frais, parce que vous, voilà, tous les deux vous en parlez de ces frais, il y a toujours le fantasme, ah, mais on ne me dit pas tout, combien on refile à l'un, combien touche l'autre, etc. Là, on a l'impression que vous voulez une totale transparence de ces frais. C'est aussi pour mettre du lien entre le CGP, son client, vous ?
Je pense que la question des frais, c'est d'abord et avant tout un problème de lisibilité des frais. Donc souvent, sur les plateformes qui peuvent exister dans l'intermédiation, la distribution intermédiaire, il y a un problème de lisibilité. On a des frais à droite à gauche, on ne sait pas nécessairement à quoi ils correspondent. Donc nous, on a voulu rendre la chose simple. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est celui de la flexibilité. Donc donner au CGP la faculté un petit peu de choisir et d'opter pour son mode de rémunération. Aujourd'hui, le CGP, dans un cas, il va gagner plutôt de façon invisible pour le client final via des rétro-commissionnements. Et dans un autre cas, et c'est toute une génération de CGP qu'on voit émerger aujourd'hui, il va assumer des honoraires de conseil. Nous, on a voulu permettre au CGP justement de paramétrer sur la plateforme les frais correspondant à ces conseils, et on va pouvoir en gérer la collecte et la facturation. Donc ça, c'est un point important qui offre un confort au CGP sur un enjeu qui est essentiel, qui est sa rémunération, tout en offrant cette faculté de jouer sur les modes de rémunération.
Juste pour revenir un petit peu sur le consommateur, finalement, l'épargnant, il a quand même pas mal d'obstacles. Alors, vous parliez tout à l'heure des PEA, par exemple. Bah, on sait que quand on a un PEA qui est un peu plan-plan dans une banque et qu'on veut le transférer, c'est très compliqué. Enfin, voilà, on va pas multiplier les exemples, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a pas mal d'obstacles qui empêchent finalement l'investisseur particulier de peut-être développer autant qu'il le souhaite son intervention sur les marchés, le développement de son patrimoine, peut-être le pilotage plus fin de ses avoirs, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez réussir peut-être à mettre un peu d'huile justement dans les rouages, de faire que le CGP, il aura grâce à cet outil peut-être plus de facilité à aider son client ?
En tout cas, nous, ce que disait Benjamin aussi, c'est qu'on met 3 ans de construction technologique qui vont de la tenue de compte à la livraison d'un produit fini à l'onboarding d'un client final. On met tout ce savoir-faire technologique à la disposition des CGP. Donc oui, on espère pouvoir... Enfin, on fait un peu plus que mettre de l'huile dans le rouage, c'est-à-dire qu'on met tout à disposition pour que ça se fasse simplement et pour que le CGP il puisse se concentrer sur son client. On parle des difficultés que rencontre l'investisseur quand il veut rentrer en direct sur les marchés. Je pense qu'il y a autant... aujourd'hui, l'idée, c'est pas de créer un clivage, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont y aller tout seuls, pour qui ont pas forcément de l'expertise, qui ont pas forcément, ils ont un peu de connaissances, mais ils ont pas de forcément l'expérience, mais ils vont y aller sans trop de difficultés. Il y a ceux qui sont très à l'aise, et il y a ceux qui, malgré ce qu'on disait au démarrage, l'éducation financière, mais n'ont pas l'expérience et n'ont pas le recul et se retrouvent complètement figés. Nous, on croit à cet accompagnement humain de la part du conseiller financier. On croit aussi que les offres sont vraiment très étoffées aujourd'hui, difficile pour celui qui commence à s'éduquer face à l'étalage et en plus qui est en permanente évolution, de savoir à quel moment il faut aller sur tel produit, et il y a tellement de paramètres à analyser. Et nous, c'est là où on croit en fait au positionnement assez fondamental du CGP à travers, pour accompagner ces clients qui ne peuvent pas y aller seuls. Mais en tout cas, oui, on met toute notre expertise, notre savoir-faire technologique à la disposition des CGP pour vraiment qu'ils puissent se focusser sur l'essentiel, c'est-à-dire leurs clients.
Une nouvelle plateforme donc d'intermédiation en produits bancaires spécialement pour les CGP. N'hésitez pas à vous rapprocher peut-être de votre conseil pour savoir s'il est bien équipé. En tout cas, merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Radio Patrimoine ce matin. Charlotte Tamer pour Shares et Benjamin Chemla également, le président de Shares. À très bientôt.
Merci.
Merci
beaucoup et bonne journée.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et aujourd'hui, on explore les synergies entre deux piliers de l'investissement patrimonial, deux séries de lettres que l'on va faire rimer ensemble. La SCPI, bien sûr, et le PER, dispositif, vous le savez, si vous êtes à l'écoute régulière de Radio Patrimoine, qui offre des atouts qui sont complémentaires pour diversifier votre épargne, pour préparer aussi votre retraite. On va donc les associer grâce à Nina Guyot. Bonjour. Merci d'être présente en plateau, directrice des partenariats d'Interinvest. Comment d'abord cet investissement en SCPI via un PER peut s'avérer un levier efficace, on va dire, pour préparer sa retraite, bien sûr, c'est le but du PER, tout en optimisant, j'imagine, sa fiscalité.
Tout à fait. La SCPI, aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment intéressant au niveau de la préparation de la retraite, puisqu'aujourd'hui, on l'utilise pour un complément de revenus. Et l'intérêt avec la SCPI, aujourd'hui, avant même d'avoir le PER, eh bien, c'est de pouvoir se constituer un patrimoine, bénéficier des rendements, et forcément sur du long terme. En général, ce qu'on fait quand on n'a pas le PER, eh bien, c'est qu'on prend de la SCPI, on va faire un démembrement de propriété, donc on prend une propriété sur une certaine durée, et au moment de l'arrivée à la retraite, on reconstitue la pleine propriété pour pouvoir bénéficier des loyers. Et l'intérêt finalement du PER, eh bien, c'est de pouvoir mettre de la SCPI dans le PER, de bénéficier des loyers dès le départ, qui puissent capitaliser sur le montant investi, et donc forcément au moment d'arriver à la retraite, eh bien, d'avoir l'enveloppe fiscale sur laquelle on n'a pas eu à payer des impôts sur les revenus fonciers sur la SCPI, et également en parallèle d'avoir les loyers qui ont capitalisé sur le PER.
La pierre papier, les SCPI bien évidemment, mais il y a d'autres dispositifs de pierre papier, mais cette pierre papier, c'est une solution vraiment de diversification patrimoniale. On l'a souvent comparé dans une période qui finit par dater, mais à une espèce de succès d'année du fonds euro qui avait une forme de tranquillité et de rendement, etc. C'est vrai que c'est pour les particuliers un outil très utile patrimonialement.
Oui, tout à fait. La SCPI aujourd'hui, c'est un outil qui permet d'accéder à un immobilier sur lequel nous, en tant que particuliers, on n'aurait pas forcément accès, puisqu'on a l'accès à de l'immobilier, que ce soit du bureau, du commerce, de la logistique, de l'hôtellerie. Et finalement, en tant que particulier, on n'a pas accès à des tickets d'entrée assez élevés sur des classes d'actifs bien définies. Et donc, l'intérêt de la SCPI, c'est de pouvoir mutualiser les risques, diversifier son portefeuille, tant au niveau des classes d'actifs, et aussi avoir accès avec un moindre prix, avec un ticket d'entrée qui est moins élevé.
Quels sont les critères? Alors, quand on parle d'immobilier, quand on dit, tiens, vous allez faire un Pinel ou je ne sais pas quoi, on dit l'emplacement, voilà. Est-ce que c'est valable aussi, finalement, pour cette fameuse pierre papier? Enfin, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en compte, nos épargnants, nos professionnels qui veulent investir ou encourager leurs épargnants à investir dans de la pierre papier?
Alors, la pierre papier, c'est, reste de l'immobilier. Donc, évidemment, l'emplacement est très important, mais ça reste surtout du temps long. Quand on investit sur de la SCPI, le temps de détention à recommander, c'est quand même à minima 20 ans. Après, évidemment, selon chaque SCPI, on est en moyenne autour des 10 ans. Mais ça reste quand même des temps longs qui nous permettent de bénéficier de chaque cycle économique, de chaque classe d'actifs, et surtout, finalement, lisser ce rendement perçu, et évidemment, ces tickets aussi d'entrée à ces moments-là. Donc forcément, la SCPI, aujourd'hui, le critère à prendre en compte, c'est vraiment le temps qui est long, et finalement, qui rentre complètement en ligne de mire avec le PER, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de plus sur cette fameuse SCPI qu'on évoque ensemble, la SCPI Élévation Tertium, par rapport, par exemple, à d'autres SCPI que l'on peut trouver sur le marché? On sait que le marché est riche. Je ne sais pas, nous en dire peut-être un peu plus en termes de secteur géographique ou de typologie d'actifs, puisque vous rappeliez qu'on pouvait investir dans beaucoup de typologies d'actifs avec ces SCPI.
La SCPI Élévation Tertium est la première et surtout l'unique SCPI dédiée à l'immobilier tertiaire en Outre-mer. Donc c'est la SCPI aujourd'hui sur laquelle on peut investir au niveau diversifié, tant au niveau géographique, puisqu'on sera situé sur l'ensemble des territoires ultramarins, donc Antilles-Guyane, Océan Indien, Océan Pacifique. Donc on va bénéficier de chaque territoire ultramarin, et chaque territoire ultramarin est aujourd'hui très autonome, à sa propre économie. Et donc là encore, ça permet de diversifier sur tous les territoires, mais c'est surtout une SCPI qui est diversifiée également au niveau des classes d'actifs. On sera sur du bureau, du commerce, de la logistique, toutes les classes d'actifs aujourd'hui qui seront porteuses de bonnes nouvelles et surtout d'opportunités pour nous pour aller chercher à investir avec des beaux rendements.
Nina Guyot, pourquoi ce focus qui est vraiment très spécifique d'Interinvest sur ces territoires ultramarins?
Alors Interinvest, c'est un groupe familial et indépendant qui a été créé en 1991, donc ça fait plus de 33 ans aujourd'hui qu'on est situé dans ces territoires-là, donc on bénéficie d'une réelle expertise. Nous sommes un groupe de 280 collaborateurs, dont 110 qui sont situés sur l'ensemble de ces territoires-là. Ils sont présents, donc c'est une vraie force pour nous aussi aujourd'hui de bénéficier de nos collaborateurs qui ont ce savoir-faire sur place, qui sont des locaux au final, et donc qui nous permettent d'accéder à des offres complètement off-market. Donc là, ça nous permet encore une fois de nous diversifier et de nous différencier aussi au niveau des autres SCPI du marché qui sont toutes en général sur la métropole. Donc nous encore, on va pouvoir aller s'exposer finalement sur, sur des marchés aujourd'hui qui ne sont pas dans les portefeuilles d'actifs des clients aujourd'hui.
Je le disais en préambule, quand on parle de SCPI, quand on parle aussi de PER, on a aussi des idées de fiscalité qui nous viennent en tête. Bon, c'est souvent le cas quand on parle de gestion de patrimoine, mais c'est souvent un facteur déterminant. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est épargnant et qu'on se dit, tiens, je vais mettre ma SCPI dans mon PER? Est-ce qu'il y a des questions fiscales particulières à avoir en tête?
Alors, faut pas oublier quand même que la SCPI, ça reste un placement immobilier, hein, finalement, donc... L'intérêt premier, c'est de placer en immobilier, donc il ne faut pas forcément mettre le côté fiscal en avant-première. Pour autant, le PER, c'est là où finalement il fait toute sa différence. Eh bien, c'est le fait qu'on puisse investir en SCPI, n'ayant pas forcément cette fiscalité sur les revenus fonciers qui pèse pour les porteurs de parts d'SCPI. Et donc, on a le fait que tous les loyers que l'on perçoive dans le PER ne sont pas fiscalisés puisqu'on bénéficie de cette enveloppe-là. Et à la sortie, au moment où on rentre finalement au déblocage du PER, eh bien là, on a ces revenus fonciers qui sont devenus des revenus financiers et donc on est imposé à la flat tax et non pas au barème progressif plus les prélèvements sociaux. Donc là encore, fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant.
Justement, est-ce que finalement, faire rimer SCPI et PER, donc SCPI de l'IMO et donc nécessairement... un peu de temps long, un peu de résilience, etc. Et PER, qui est aussi un produit sur le temps long pour le moment où on partira à la retraite. Est-ce que, finalement, l'un et l'autre, ou l'un dans l'autre, ça contribue à une meilleure résilience, peut-être, du patrimoine des Français?
Tout à fait. La SCPI, dans finalement, son ADN, eh bien, c'est d'être sur un temps long, pour pouvoir bénéficier des revenus sur du long terme, mais aussi d'acheter à des cycles différents. L'immobilier, hein, l'immobilier a ses cycles. Et forcément, le PER, dans sa propre nature, est constitué pour sa retraite. Et donc forcément, les deux ensemble, ça permet de capitaliser sur des revenus qui seront sur du long terme et forcément, au moment de la sortie, avoir des parts beaucoup plus importantes.
Projetons-nous un petit peu, parce qu'effectivement, cette SCPI arrive, mais vous avez rappelé l'histoire du groupe Interinvest. Votre vision, plutôt à long terme, c'est quoi? C'est d'autres petites sœurs, entre guillemets, peut-être d'autres SCPI, d'autres projets
Alors, SCPI Innovation Tertium est sortie il y a un petit peu plus d'un mois. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur notre SCPI, qui est un petit peu, finalement, le vrai projet qui nous tient à cœur chez Interinvest. Donc pour le moment, on va rester sur cette SCPI. Alors évidemment, on a d'autres fonds sur de l'immobilier aussi. Donc forcément, nous, on a une forte conviction sur l'immobilier en tant que tel. Et donc, on y croit. Et pour le moment, on va rester quand même sur cette SCPI Outre-mer qui reste notre ADN.
Nina Guyot, merci d'être passée dans Cœur de Patrimoine aujourd'hui, directrice des partenariats d'Interinvest.
Merci.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On vous remercie bien évidemment de votre confiance, de votre fidélité chaque mercredi matin et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de votre patrimoine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.